De nombreux rendez-vous sont prévus sur les réseaux sociaux du Comité National Olympique. Et c'est tout pour l'actualité. Excellente matinée à tous.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'Heure Flamande qui va commencer, préparée par Michel et Marie-Jo. Il est un petit village où mon cœur est accroché comme un vivant témoignage d'un amour qui s'est penché. C'est là que ceux de ma race ont ri, souffert et pleuré, sans même laisser de traces au sol qu'ils ont labouré. Il est une pauvre église où mon âme va prier et qui pour moi symbolise les souvenirs du foyer. C'est là que toute menue et le chapelet au doigt, mes grands-mères inconnues s'agenouillaient autrefois. Il est une vieille ferme où mon esprit va rêver et tout ce qu'elle renferme suffit à me captiver. Le passé, ce doux fantôme, s'offre à mes yeux obstinés. C'est là, sous ce toit de chaume, que mes ancêtres sont nés. Et le cher petit village, et l'église, et son clocher, la ferme et le paysage, ont si bien su m'attacher qu'il n'est pour moi sur terre pays plus tendre à chérir, et sous le ciel qu'il éclaire, j'espère vivre et mourir. Donc on commence notre émission ce matin par un poème intitulé « Il est un petit village », écrit par Charles Baudard-Timal, un poète qui n'est pas très connu, né en 1897 à Roubaix.
Et donc ce poème que vous venez d'entendre eh bien, correspond bien à celui auquel nous allons ici consacrer cette émission. La Flandre française compte de nombreuses femmes et d'hommes de grande valeur, mais curieusement, nous les connaissons peu, voire même pas du tout. Pourquoi ? Sont-ils trop modestes ? Volonté de gommer de nos livres d'histoire ces personnages qui peuvent rendre une certaine fierté à la région ? N'y aurait-il donc que de bons becs qu'à Paris ? Voilà quelques réflexions qui nous viennent après avoir préparé cette émission sur un personnage qui mérite toute notre attention, Émile Cornard.
Een klein verhaaltje dat eigenlijk had kunnen gebeuren in de vorige eeuw, maar dat zich afspeelde vorig jaar tijdens de vakantiemaanden. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien, tot groot misnoegen van mijn vrouw. Maar ja. Ik ken er niks van. Op een rots te midden der rivier, toen kwam daar een horzel brommen, maar het brommen deelde haar geen zier. Want ze hoorde speelse bronnen, liedjes zingen in het groene wier. En terwijl de bronnen zongen, op de gouden zonnelier, bloeide in haar droom ontgonnen, bloeide toen een eglantier. Zijn geiten midden de rivier. De meisjes schrokken, alle bronnen zwegen even in het groene wier. Want hun lied was was losgesprongen. Het is naar een van de zonnelier. En terwijl de gronden zongen op de gouden zonnelier, zijn ze beiden weggezwommen naar de verwerven. En ze zag die blonde jongen in het water duiken met veetzwier. Om waar heen kwam hij gezwommen, in een boot van schuim en puur plezier. Van de waterdruppels sprongen op de snaren van de zonnelier. En terwijl de druppels zongen, schoof zijn hoofd van onder het wier. En hij stak toen ongedwongen in haar haren eglantier. Maar het brommen deerde hen geen zier, want zij lag naast hem te zonder op de rotste midden der rivier. En ze hoorden speelse bronnen liedjes zingen in het groene wier. En terwijl de gronden zongen op de gouden zonnelier, zijn ze beiden weggezwommen naar een oever ver van hier.
Coles vous interprétez l'églantine. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous consacrons donc cette émission à Émile Cordar. Ce nom vous dit-il quelque chose? Peut-être pour quelques-uns d'entre nous, mais la grande majorité, il faut bien le reconnaître, ne connaissent pas ce monsieur et qui pourtant mérite toute notre attention. Il mérite d'être connu. Émile Cordar, un nom bien flamand, est né le 31 août 1886 à Onscott, dans le Vestouk, pas loin de la frontière franco-belge. Il est le dernier enfant d'une fratrie de 13. Son père est ouvrier agricole, c'est une famille très pieuse, et à la maison on parle le Vlaams. Le père d'Émile est un homme qui éduque ses enfants dans le goût du travail, de l'effort. Émile prépare tout d'abord, bien sûr, l'école communale dans sa commune de Onscott. Il est très vite repéré par ses instituteurs pour la qualité de son travail. Il part ainsi en 1898 au petit séminaire d'Hasbrook. Se destine-t-il à la prêtrise? Je l'ignore. À cette époque-là, eh bien, chaque famille flamande était toujours très honorée de consacrer un de ses enfants. C'était un grand honneur que un garçon ou une fille rentrait donc en religion. Et d'ailleurs, les parents avaient un titre un peu particulier. Ils étaient honorés par, bien sûr, le fait que l'un des enfants était rentré en religion. D'ailleurs, la Flandre a fourni de très nombreux missionnaires. Émile Cordar obtient le baccalauréat en 1904. Alors, le baccalauréat à l'époque, il faut savoir que c'était vraiment le diplôme de référence. Par classe d'âge, il ne dépassait pas 10%. Donc rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc il faisait partie donc de ces bacheliers, cette forme de élite intellectuelle. Son père malheureusement décède de bonne heure, il en sera très marqué. La mécanisation du monde agricole réclame de moins en moins de bras, donc il faut bien sûr trouver de nouvelles orientations. Compte tenu de ses qualités intellectuelles, Émile Cordar s'inscrit à l'Institut catholique de Lille. Il est séduit par l'action de l'abbé Lemire, qui est un des magistrats de Hasbrook, où il a fait d'ailleurs ses études. Il adhère au mouvement Le Sillon. Le Sillon était un mouvement d'essence surtout chrétienne, animé par Marc Sornier en particulier. Émile Cordar n'a pas oublié ses origines modestes et bien sûr... dans sa philosophie, son éducation catholique, eh bien, il se tourne vers ce monde ouvrier, ce monde des modestes. Et c'est un mouvement donc qui prend de plus en plus d'ampleur et qui eh bien, est dans l'esprit de l'abbé Lemire pour justement se consacrer et se tourner vers ce monde ouvrier qui s'éloignait bien sûr du catholicisme. Mais seulement voilà, la hiérarchie catholique n'apprécie pas tellement ce mouvement peut-être trop proche des idées socialisantes. Si bien qu'en 1910, eh bien, ce mouvement, le Sillon, s'autodissout devant l'hostilité du pape et de certains évêques. Émile Cornard, bien sûr, continue, lui, à travailler en faveur des plus modestes.
Kleine Maartje spaart haar centjes voor haar zus over de zee. Kleine Maartje spaart haar centjes, op een dag neemt zij ze mee. Wat ik zie en niet wil, is hoe anders jij al bent.
Dat is iets wat voor mij heel moeilijk bent.
Kleine Maartje wordt actrice, heel alleen op het toneel. Kleine Maartje wordt actrice, en niets is haar te veel.
Wat ik zie en niet wil, is hoe anders jij al bent.
Het is iets wat voor mij
Marthe, interprété par Eric et San. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, nous consacrons donc cette émission à Émile Cornard, né à Onscott. Émile Cornard, donc, en 1906, il obtient sa licence en lettres, et pour bien sûr subvenir à ses besoins, eh bien, il travaille naturellement parce que sa famille est trop modeste pour subvenir aux frais de ses études, et il travaille comme journaliste. Il est bien sûr repéré pour ses qualités de travail, en particulier par ses professeurs, et d'ailleurs, il l'encourage à poursuivre ses études, et c'est ainsi que Émile Cornard se retrouve à la Sorbonne, où il fait des études en particulier d'histoire et de géographie, avec comme spécialité le Moyen-Âge. Il rencontre bien sûr à la Sorbonne beaucoup d'éminents professeurs qui admirent. Émile Cornard est très curieux et en outre, non seulement il connaît bien le vlaamsch, le néerlandais, mais aussi il connaît l'anglais, l'allemand. Naturellement, la connaissance du néerlandais, du flamand, lui a permis bien sûr d'accéder plus facilement à l'étude de ces langues anglaises et allemandes qui sont quand même assez cousines, il faut bien le reconnaître. Malheureusement, la guerre éclate en août 1914. Que va faire notre Émile Cornard, lui, qui étant 13e enfant de cette fratrie, était dispensé du service militaire? Eh bien, Émile Cornard, il a reçu, comme je le disais au début de cette émission, une éducation de devoir, une éducation du sens des responsabilités. Aussi, plutôt que de rester tranquillement dans les arrières-couloirs des bibliothèques, eh bien, il s'engage très tôt, il s'engage dès le début du conflit. Et il est d'abord affecté à un régiment d'infanterie, mais ses connaissances, bien sûr, n'échappent pas à sa hiérarchie, qui aussitôt le repère et naturellement, compte tenu qu'il connaît bien l'allemand, eh bien, il est affecté à un régiment de génie, section d'écoute, en effet, pour, bien sûr, intercepter les messages de l'ennemi et les traduire de façon, bien sûr, à renseigner ses chefs de guerre. Émile Cornard, d'ailleurs, ne manque pas de courage. Il sera d'ailleurs décoré de la Croix de Guerre parce que, eh bien, lors de bataille, eh bien, il a été cherché sur les lignes un compagnon blessé. Et donc, c'est un véritable acte de bravoure. Sa hiérarchie lui propose, bien sûr, compte tenu de ses qualités intellectuelles, de passer officier. Mais ils connaissent mal notre Émile Cornard, car celui dernier préfère rester avec ses camarades de combat. Et c'est ainsi que Émile va terminer comme sergent. Il a alors 33 ans. À la fin de la guerre, eh bien, il reprend ses études et il obtient l'agrégation d'histoire en 1920. En 1921, il se marie avec Alice Robert, c'est une Lorraine, et de cette union naîtra 3 enfants.
Het was een knal, ik was verblind. Ik hoop dat ik mezelf weer vind. De liefde heeft me zwaar geraakt. De liefdesvlam die is ontwaard, zo explosief, zo onverwacht. Stond je voor me op die dag, de wereld staat in vuur en vlam. De liefde maakt me even bang. Ik word zo gek als ik je zie. Ik leef nu in een fantasie. Maar ik heb mezelf beloofd dat deze liefdesvlam nooit dood. Ik zal ontwaken op een dag. Dan lig je naast me met een lach. Sinds dat moment toen ik ik je zag, wil ik je bij me elke nacht.
De bom, de bom, ja, de bom. De bom, de bom, dat ben jij. De bom, de bom, ja, de bom. Ik wil jou heel even voor mij. De bom, de bom, ja, de bom. De bom, de bom, dat ben jij.
Vous chantez La Bombe de Bombe. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus.
Que nous consacrons donc à Émile Cornard, qui est un fils du Vestouk. Et notre Émile Cornard enseigne tout d'abord à Alençon de 1922 à 1925. Puis il est muté à Nancy où il se rapproche de sa belle famille, où il y restera là encore 3 ans. Mais voilà, on l'appelle, compte tenu bien sûr de la qualité de son enseignement, de ses connaissances, il est nommé à Paris au lycée Condorcet. Tout d'abord, il enseigne bien sûr, mais il poursuit en même temps ses recherches et en particulier il s'attache à plutôt des études de l'histoire économique en particulier, chose qui est un petit peu révolutionnaire pour l'époque. Il soumet comme thèse pour son doctorat une étude consacrée à la draperie des villes de Onscott et de Bergue. Il obtient ainsi son doctorat en 1930. Il est appelé à siéger à l'université de Sao Paulo au Brésil de 1934 à 1935 et il va même créer une section francophone. Il est parent quinier, notre flamand. En effet, lorsqu'il était enfant à l'école communale, il n'était pas bon de parler flamand, même à Onscott où à l'époque, eh bien, la majorité bien sûr, de la population parlait encore notre flamge. Et d'ailleurs, il en fait part dans l'un de ses livres, La Flandre française, de langue flamande. Et d'ailleurs, écoutons ce qu'il en écrivait à l'époque.
C'est à partir de 1833 où fut votée la loi dite « loi Montalivet » ou loi Guizot, du nom du premier ministre de l'époque de l'instruction publique, que l'enseignement primaire fut régulièrement institué dans chaque commune. À la suite de la nouvelle loi, l'enseignement du flamand fut interdit pour la première fois. Les enfants se servaient déjà, et se servirent de plus en plus, d'un petit dictionnaire français-flamand des Newen Cabinet. Alors, entra en usage dans les écoles primaires le signum, dont le nom trahit l'emprunt aux écoles d'humanité. Le signum, héritage des écoles latines, était modernisé en signe dans certaines écoles à la fin du XIXe siècle. C'était un petit ruban de papier remis le lundi matin par le maître dans la cour de l'école et sur lequel chacun de ses détenteurs successifs devait écrire son nom. À la fin de la semaine, ils étaient punis d'une mauvaise note, le dernier de deux. Quelques mauvaises têtes le gardaient jusqu'au samedi. Le procédé était contestable, très contestable. L'auteur de ce livre a ainsi écopé lui aussi d'un certain nombre de mauvaises notes, et il a bien sûr, comme ses camarades, grogné. Les notes de l'école ne l'ont jamais empêché de parler avec ses parents, indifféremment ou en flamand, ou en français. Et il a toujours su qu'une fois sorti de la communale, personne n'aurait aucune idée de lui dire quoi que ce soit pour avoir employé sa langue maternelle. L'énoncé de ce petit problème, qui a fait rouler bien des grands mots, comporte plus de données qu'il me semble en notre XXe siècle. D'abord la date tardive, 1833, jusqu'à laquelle aucun gouvernement français, sauf la convention qui laissa sa tentative avortée, non seulement ne gêna l'emploi du flamand, mais ne chercha à en remplacer l'enseignement. Puis l'atmosphère du XIXe siècle, l'esprit soufflé dans les voiles d'un patriotisme qui allait partout se rétrécir en nationalisme. On ne peut oublier que Laurius, ferme défenseur de la langue flamande et dans le désert héros de la hollandaise, avait réintroduit le signum en 1803 dans son collège renouvelé, et que du XVIe au XVIIIe siècle, les jeunes Français dans les écoles latines en furent punis quand ils parlaient leur langue. Et que l'anachronisme est un péché mortel en histoire, tout ceci n'interdit aucunement d'estimer le procédé contestable. Aujourd'hui, un dicton flamand sourit des gens qui vont tirer du fossé des vieilles vaches. Alors ça, c'était donc une remarque pour expliquer ce que parlait, où M. Cornard nous parle de ce qu'est le signum. Au vrai, pendant d'assez longues années, des maîtres prirent avec la prohibition d'utile liberté. Jusqu'en 1853, le Conseil académique du Nord admit que le catéchisme fut enseigné en flamand. Il avait seulement exprimé le vœu qu'un texte français fût joint au flamand. En janvier de cette année, il demanda que les deux fussent imposés simultanément et il prit une décision ne permettant la lecture en flamand dans les arrondissements de Dunkerque et d'Hazebrouck que pour les enfants du catéchisme. En 1854, le ministre Duruy invita l'archevêque de Cambrai à ne faire apprendre que le texte français. Monseigneur Régnier refusa d'intervenir. Plus efficace que l'école pour l'expansion du français dans le peuple fut le service militaire. Depuis la Révolution, l'armée brassait un bon nombre de jeunes gens du pays. Le système en vigueur depuis 1832 organisait un service de 7 ans. Le tirage au sort dispensait d'environ les 3/4 des conscrits de toute obligation. Le remplacement permettait aux membres de familles aisées d'y échapper, mais cela savait le français. Les 7 années étaient coupées par de longs congés, même si de 6 mois pour les cultivateurs. Beaucoup de jeunes flamands, nullement habitués au français, s'accoutumaient à le parler et rapportaient chez eux un bagage inégal suivant les hommes mais réel. Cet entraînement fit entrer la langue française dans les usages. Sans parler de la connaissance des réalités quotidiennes de la grande patrie, et plus profondément de la participation à ses sentiments, au patriotisme alors partout exalté. Donc c'est un extrait de la Flandre française de langue flamande d'Émile Cornard.
Et donc tout simplement, il constate bien sûr le recul de notre langue régionale, le Vlaams, et qui d'ailleurs après, il évoque à l'époque bien sûr le service militaire, l'interdiction d'enseigner le flamand, et puis après bien sûr l'arrivée de la télévision en langue française va accélérer encore le recul de notre flamand. Émile Cornard bien sûr était très attaché à sa langue maternelle.
Een mooie lach en je wordt verliefd, maar voor je het weet is je hart gebroken, je luchtkasteel in brand gestoken. Oh, gek zijn is voorgoed voorbij. Nee, gek zijn is voorgoed voorbij. Een zalig gevoel. Ben je ineens door haar aangestoken? Moet je door haar naar de dokter lopen? Oh, oh, oh. Gek zijn is voorgoed voorbij. Nee, gek zijn is voorgoed voorbij. Ik ga nooit meer voor het altaar staan. Ik heb het vaak genoeg. Laat ik mij nog vangen.
vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous consacrons donc ce numéro à Émile Cornard, dont fils de Hans Scott dans le Vestouk. Et Émile Cornard, grâce à la qualité de ses travaux sur l'histoire économique, il est promu au Collège de France, ce qui n'est pas rien quand même, il faut le reconnaître. Sa réputation est donc telle que de nombreuses universités, en particulier en Belgique, vont le réclamer pour donner des conférences dans leurs universités. Et bien sûr, sa connaissance du néerlandais, de l'anglais, de l'allemand, et bien sûr, en plus du français, et bien lui permettent naturellement, aisément, de s'adapter à chacun de ses interventions dans les milieux universitaires. Arrive 1939 et cette fameuse troll de guerre. Émile Cornard devine bien ce qui risque de se passer, car naturellement il a des connaissances en Allemagne en particulier, et il sent bien que la guerre va éclater. Il se retrouve d'ailleurs à l'époque, au moment donc de mai 40, au sud de la France, dans la région de Albi. Que va-t-il faire, Émile Cornard? Eh bien, naturellement, il aurait pu continuer tranquillement dans son rôle d'enseignant dans cette zone sud qui n'était pas, comme le nord, bien sûr, occupée. Mais c'est un homme de devoir, c'est un homme de fidélité. Sa terre natale, elle est occupée et même séparée de la France, puisque désormais le Nord-Pas-de-Calais est rattaché à Bruxelles, annexé au Reich, comme fut l'Alsace-Lorraine. Alors évidemment, Émile Cornard, ça lui fait mal au ventre et il ne peut pas rester les bras croisés. Il rentre très vite en résistance dans le domaine qu'il connaît bien, naturellement le journalisme. Il crée avec des amis, en particulier Henri de Montfort, un journal clandestin qui s'appelle La France continue. Il échappe de peu à une rafle en 42, mais néanmoins ça ne le décourage pas pour autant, puisqu'il continue son travail de résistant en agissant un peu de liaison de différents réseaux jusque la libération. Au lendemain de la guerre, Émile Cornard fut aussi un militant syndicaliste à la CFDT. Il contribue d'ailleurs à la création du Syndicat Général de l'Éducation Nationale, le SGEN. Il en fut d'ailleurs pendant quelques années le président, mais il fut contraint de démissionner parce que jugé un peu trop idéaliste, trop consensuel par certains. C'est ainsi que, bien sûr, Émile Cornard était un homme de dialogue. Il ne voulait pas d'affrontement, d'un syndicalisme basé sur la haine de l'autre, de la violence. Il était partisan, donc, de trouver des solutions dans la paix, dans la concertation. Émile Cornard reprend sa retraite en 1957, mais c'est pas pour autant qu'il range, bien sûr, ses livres et ses cahiers. Il continue naturellement son travail de recherche et se met bien sûr à l'écriture. Il publie de très nombreux ouvrages. Émile Cornard, va poursuivre dans son travail quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Il décède à Paris, le 25 février 1980, il avait alors 94 ans. Il sera enterré dans la commune de son épouse à Allermann dans les Vosges.
Door het raam kijk ik op straat. Kom je of ben je nog kwaad? Ja, ik wacht. Misschien gaat zo de telefoon. Ik hoor regen op het dak. Zit nu niet op mijn gemak. Iedere auto die er stopt, dat kan jij zijn. Zelfs de lichten gaan al aan. Toe je laat me toch niet gaan. Alsjeblieft, dat doe je mij nu toch niet aan.
Yeah.
voor een gek. Ach, ik ook. Met mijn grote bek. Het is maar goed dat niemand weet hoe ik me voel. Want ze lachen zich kapot. Ho ho. Ach, wat vinden zij het rot. Maar ik zeg niets als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, het spijt me wat ik zei. Maar misschien kom je weer bij mij. Ja, ik hoop het. Want ik kan niet zonder jou.
Kamer, vous interprétez « Ik kan je niet vergeten ». Je ne peux pas t'oublier. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et Émile Cornard, il ne pouvait pas non plus oublier son pays natal, sa Flandre du Westhoek. Et Émile Cornard a laissé de très nombreux ouvrages. Bien sûr, nous n'allons pas tous les citer ici. Son œuvre est d'ailleurs immense et naturellement, on ne peut que vous inviter bien sûr à faire des recherches sur ce grand monsieur qui est Émile Cornard. Tout d'abord, eh bien, en 1930, il soutient sa thèse pour le doctorat et naturellement, il ne pouvait pas oublier justement son Westhoek et il choisit comme sujet principal la draperie et sailleterie de Onscott et en second thème, l'industrie de la laine à Berg-Saminoc. Évidemment, on imagine aisément l'étonnement de ses pairs à la Sorbonne quand il a présenté ses deux thèses sur des communes dont la plupart devaient complètement ignorer leur existence. Peut-être que Onscott, avec la célèbre bataille de 1793, où la gendarmerie s'est en particulier illustrée face à l'ennemi, a pu laisser quelques souvenirs à ces messieurs, mais guère plus. Mais Onscott est une ville qui était très réputée à travers l'Europe pour la qualité de ses draps, et ces deux cités que furent Berg et Onscott possédaient et possèdent d'ailleurs encore de très riches archives, naturellement rédigé en flamand, ce qui ne gênait pas du tout, bien sûr, Émile Cornard, qu'il connaissait bien. Et donc, il a présenté ses deux thèses et il a rencontré un franc succès par la qualité de son travail, par cette approche originale de l'histoire économique. Il entreprit, bien sûr, une vaste étude aussi sur le capitalisme et l'économie à Anvers du XVIe siècle. Et donc, il s'y attachait, c'est un travail énorme, puisqu'il a travaillé à partir de 1936, et ceci pendant plusieurs années. C'était un gros travail, bien sûr, de consultation des archives anversoises. Mais Émile Cornard, il avait deux qualités, bien sûr, c'était la connaissance naturellement du néerlandais et une force de travail énorme pour aller, bien sûr, consulter ces riches archives. Il fallait aussi beaucoup de patience et d'obstination, qualité qu'il possédait. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, il a sorti deux volumes, en 1961 pour être précis, La Français et le commerce international à Anvers du XVe et XVIe siècle. Il décrit bien sûr les relations du port d'Anvers, non seulement avec la France en particulier, mais aussi à travers l'Europe. Ce qui est remarquable dans ces deux œuvres est la place que l'auteur donne aux hommes en particulier, aux détails de la vie quotidienne, ce qui dénote énormément à l'époque où l'on faisait l'histoire surtout à travers la vie des grands hommes et des grands de ce monde. Il décrit bien sûr dans vraiment le quotidien des acteurs de la vie économique de la cité d'Anvers et de toutes les relations que cette cité portuaire avait donc à travers l'Europe à cette époque. En 1966, il publie un ouvrage qui est Les compagnonnages en France au Moyen-Âge à nos jours. C'est un ouvrage qui rencontre un franc succès. Et là encore, il s'attache à la vie des artisans, des compagnons d'ailleurs qui le fascinent. Et il fait vraiment un travail très remarquable et d'ailleurs... Les sociétés de compagnonnage en ont fait quasiment un livre de référence, tant c'est d'écrire l'esprit de corporation, l'esprit des traditions qui, bien sûr, animent ces corporations, ces compagnonnages. Enfin, il y avait aussi un ouvrage parmi tous ceux qu'ils ont écrit et que nous avons donc donné lecture tout à l'heure, un petit extrait, c'est bien sûr le livre « La Flandre française de langue flamande ». C'est un livre de foi envers son pays natal. Il était très attaché à défendre son pays, sa langue. Et d'ailleurs, on lui reprochait, ses pères souvent lui reprochaient cet accent flamand qu'il avait gardé malgré qu'il était parti depuis déjà quelques années de Danscote et de son Westhoek. Mais il gardait cet accent typique de sa région. Alors, est-ce pour autant qu'il s'est inscrit dans un mouvement régionaliste à l'époque qui était quand même, entre les deux guerres, assez dynamique, qu'aussi bien d'ailleurs en Bretagne, en Alsace et aussi en Flandre? Ben, nous ne pensons pas, il a dû se tenir certainement plus ou moins au courant, en particulier sur des mouvements comme le Vlaamsverbond, qui était très dynamique, animé par le célèbre abbé Gantois. Mais notre homme, Émile Cornard, était un homme plutôt, comme on disait tout à l'heure, de dialogue, de paix. Il n'aimait pas trop les revendications, il n'aimait pas trop les mots de séparatisme, peut-être que ça lui faisait un peu peur. Et donc il s'est plutôt tourné vers une association savante qui était bien sûr dans l'étude de l'histoire de notre région, le Comité flamand de France. Pour lui, il était flamand français, ses engagements passés étaient surtout pour à la fois pour la grande patrie, à travers ses actions, aussi bien dans lors de la Première Guerre mondiale que lors de la Seconde, on a pu le voir tout à l'heure. Il était attaché très profondément donc à sa petite patrie, mais il ne reniait pas la grande patrie, donc la France. Ses pères parisiens, malgré ses moqueries sur son accent, eh bien ça ne le décourageait pas de défendre tout simplement sa région. Et d'ailleurs, dans la préface du livre... Donc la Flandre française de langue flamande, eh bien, il dit bien, c'est son autoportrait en quelque sorte. Et écoutons ce petit extrait.
Ce livre est une offrande du soir, du temps où le retour d'un destin que Dieu a voulu faire longue approche inexorablement du port commun. Depuis le sommet de sa courbe, voici bien 40 ans, le souci m'accompagne de savoir les pensées, d'éprouver les sentiments de nos devanciers dans notre coin de l'Ouest, notre Westhoek, nom que je lui ai donné en propre jusqu'à l'annexion à la France. La vie ne m'y a pas ramené aussi souvent que je l'eusse souhaité, mais je tiens à cette terre comme un arbre à la sienne par les racines.
Voilà, tout est dit. Émile Cornard était très très attaché donc à Anscote, à son Westhoek natal. Et sa plus grande souffrance, bien sûr, ça a été de vivre loin de cette terre. Mais il a fait ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire, bien sûr, l'étude dans le détail, le respect de la vie, dans la vie quotidienne. C'était pas l'histoire des grands de ce monde, comme je le disais tout à l'heure, mais simplement des gens, de la vie quotidienne, de ces artisans, de ces ouvriers. Il n'avait pas oublié non plus ses origines sociales. Donc c'est Émile Cornard, vraiment, c'est un flamand à découvrir, à redécouvrir pour certains. Et je ne peux que vous inviter, ne serait-ce que déjà, à lire le livre dont on a cité deux extraits ici, La Flandre française de langue flamande. Notre émission, eh bien, touche déjà à sa fin. Eh bien, nous allons vous souhaiter une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus 104.3. Vous pouvez aussi, bien sûr, l'écouter sur www.radioplus.fr et nous vous souhaitons donc une excellente semaine.
Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel of ik nog wellicht naar binnen kan. Jouw iedere beweging lijkt bij mij vandaan. Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan. Wil je weten hoe het danst zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als dat beter is. Heeft het leven dan meer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als het echt zo is dan laat ik je vrij. Als dat beter is, wil niet zeggen dat ik jou niet mis.
De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht. Al staat wat ik wil zeggen wel op mijn gezicht. Oh. Ik kan niet met je praten. Als het moet zet ik een stapje opzij. Als dat beter is. Heeft het leven dan weer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als dat echt zo is, dan laat ik je vrij. Als dat beter is. Wil niet zeggen dat ik jou niet mis. Ga maar kijken hoe het dan. Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Ik leer vast wel hoe het danst zonder jou. Ook al mis ik de balans zonder jou. Oh, ik hoop dat ik het kan zonder jou. Als het beter, als dat beter is. Ga maar kijken hoe het danst zonder mij. Geef de liefde weer een kans zonder mij. Stapje opzij. Als het beter is. Ga maar kijken hoe het danst. Ga maar kijken hoe het danst. Wil je weten hoe het danst zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet zet ik een stap. Wil niet zeggen dat ik jou niet meer.